Alors, quelques pistes, je dis bien des pistes, pour une autre politique des transports. Bon, j'aime bien les épigraphes, cette fois c'est Shakespeare, qui nous dit « L'homme à certaines heures est maître de son destin. Nos fautes, cher Brutus, ne sont point dans nos étoiles, mais dans nos âmes prosternées. » Parce que c'est extrait de Jules César. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en réalité, tout ce qui nous est présenté comme étant inéluctable, c'est le destin de l'humanité, c'est comme ça, on est obligé d'avoir toujours plus de transports, toujours plus de camions, c'est pas vrai. On peut imaginer d'autres politiques des transports. Ça se fera pas du jour au lendemain, il faut pas rêver. On est dans une société qui a tellement été organisée autour du transport facile, autour de la multiplication des transports, que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on pourra y arriver, mais on peut en prendre la direction et petit à petit modifier considérablement notre utilisation des transports, à la fois nous en tant que voyageurs et aussi en ce qui concerne le transport des marchandises. Ce que je voudrais dire, c'est d'abord que les problèmes qui sont graves, que j'ai cités concernant le rôle des transports dans l'effet de serre, dans la pollution en général, il ne faut pas en chercher la solution dans une espèce de surenchère technologique. Hein, on vous a parlé de l'utilisation de l'hydrogène qui va tout résoudre, il n'y a pas de problème, on pourra tous garder nos bagnoles et le fonctionnement à hydrogène. Oui, seulement, pour fabriquer de l'hydrogène, il faut consommer énormément d'énergie et ça émet énormément de gaz à effet de serre. Bon, c'est-à-dire que donc ce qui ne serait pas émis à la sortie du pot d'échappement sera émis dans les usines qui feraient l'électrolyse de l'eau pour obtenir de l'hydrogène. Je crois qu'en fait, le plus grand gisement d'énergie renouvelable, totalement renouvelable dans les pays développés, c'est les économies d'énergie possibles. Elles sont considérables. Et je vous renvoie à la conf que fera Salomon de Negawatt. Il vous détaillera ça très bien. Vous verrez qu'on peut, en vivant pratiquement de la même façon, consommer deux fois moins d'énergie qu'aujourd'hui. Il le démontre très bien, je le connais, je l'ai déjà écouté. Et en plus, il vient de refaire une nouvelle simulation à 50 ans sur les économies d'énergie possibles. Économie d'énergie, donc, et deuxièmement, surtout, changement profond de nos modes de vie, de production et de consommation. Je crois qu'un des premiers enjeux pour une nouvelle politique des transports, c'est qu'il faut démocratiser radicalement la prise de décision sur la politique des transports. Excusez-moi. Les citoyens et leurs élus doivent pouvoir peser sur les choix de politique des transports, y compris de marchandises. Or, aujourd'hui, il faut constater que les décisions en matière de politique des transports sont préparées et sont imposées dans des cénacles technocratiques, et les élus locaux y sont cantonnés aux litanies électoralistes pour obtenir de nouvelles infrastructures. Quant aux citoyens, eux, ils sont cantonnés aux manifestations et aux barrages routiers. Mais tout ça pourquoi? Parce qu'il n'y a en fait aucun réel débat public, il n'y a eu aucun réel débat public sur cette politique des transports qui nous est imposée et qui a conduit à la situation que j'ai décrite. Je voudrais mentionner que particulièrement en France, parce que ça c'est un problème vraiment franco-français, l'intérêt général est littéralement confisqué par l'administration de l'État et ses grands corps qui sont censés en être les porteurs. Le corps des ponts et chaussées en matière de politique des transports, le corps des mines en matière de politique énergétique. Hein. Et ces féodalités exercent leur monopole de l'expertise, mais une expertise irresponsable, dans la discrétion des cabinets ministériels et ne rendent jamais de compte à la population, parce qu'ils ne sont pas élus, des experts. Hein. Je crois qu'il est nécessaire de placer les options de politique des transports et de l'énergie à la pleine lumière du débat public pour en finir avec la dictature d'une espèce de technoscience qui se dissimule derrière de prétendues lois du marché. Alors, ça suppose des avancées assez significatives, surtout chez nous en France, où on a des institutions de la Ve République qui sont assez monarchiques, il faut bien le dire. Ça nécessite des avancées significatives sur le chemin de démocratie participative. Mais je pense qu'on doit pouvoir y arriver. Au plan européen, une application prioritaire du débat public consisterait à évaluer démocratiquement la libéralisation du transport qui est conduite depuis une quinzaine d'années par la Commission de l'Union européenne, qui n'a jamais fourni le moindre début de preuve de ses effets positifs. Bon, deuxième point, toujours très général, redéfinir les services publics en tenant compte de la protection de l'environnement. Je crois que pour contrecarrer l'aliénation marchande, il faut définir politiquement les services publics et pas seulement juridiquement. La définition juridique des services publics, vous avez dû en entendre parler, c'est le fameux triptyque égalité, continuité, adaptabilité. Hein ? Et il y a une définition économique qui est les services publics s'occupent, prennent en compte les phénomènes que le marché traite mal ou que le marché ignore. Mais ça, c'est une définition, pour moi, qui est d'un économisme complètement réductionniste. Hein. Ça veut dire qu'on laisse aux services publics ce qui ne rapporte pas de profit. Et finalement, c'est ce genre de définition économique qui conduit à la notion de service universel qui est utilisé par les instances européennes dont vous avez entendu parler, mais qui commence à être utilisé aussi chez nous. Le service universel, c'est quoi ? Une sorte de filet de sécurité minimale. Pour moi, le service universel, il est au service public, ce que la charité est à la solidarité. La définition politique du service public, que j'appelle personnellement de mes voeux, elle relie par contre le social et l'économique. Elle inclut la dimension du modèle de société et elle fait des services publics une composante essentielle de la cohésion économique, sociale et territoriale. Elle renvoie à la question des droits humains et dans cette acception politique en définitive est service public. Tout service ou même toute production matérielle de biens qu'il a été démocratiquement décidé de considérer comme tel. Je crois que ça me paraît être la meilleure définition du service public. Autre chose qu'il faut remettre en cause, c'est le postulat selon lequel le transport des marchandises ne saurait faire partie du service public. Mais si le transport des marchandises ne peut pas faire partie du service public, c'est le postulat libéral, bon, ça veut dire qu'on remet les décisions politiques aux seules forces du marché. Or, les conséquences de la circulation des marchandises sans limite, comme je l'ai montré, sur la qualité de vie sont telles, je crois qu'il n'est pas admissible de laisser les chargeurs décider seul de l'environnement dans lequel nous avons le droit de vivre ou de survivre. Et à cet égard, si la propriété publique ne garantit pas la satisfaction des besoins et le droit des citoyens, on l'a vu, et je connais bien le problème puisque je travaille à la SNCF, hein, c'est une propriété publique, mais les politiques en matière de services publics sont vachement discutables. Mais néanmoins, la régulation publique est indispensable. Bon, dans le rail européen, j'en ai parlé, mais j'insiste pas, on va encore m'accuser de faire du corporatisme. Bon, je crois qu'il faut très profondément remettre en cause la séparation des fonctions de gestionnaire d'infrastructures et de fournisseur de services. Cette séparation, en fait, elle ne vise qu'à une chose, à mettre en concurrence les établissements publics historiques de transport ferroviaire et à les démanteler, à les casser petit à petit. Hein. Et au passage, d'ailleurs, ça renchérit de manière assez importante leur coût de fonctionnement. Et ça instaure un processus complètement autonome de marchandisation des capacités des réseaux ferroviaires et qui est placé complètement hors de la sanction directe des usagers et du contrôle des élus. Hein. C'est ce que fait en France l'établissement public Réseau Ferré de France qui donc sollicite des entreprises ferroviaires pour rouler des trains de manière à percevoir des péages pour l'utilisation du réseau. Hein, péage que paye la SNCF elle-même aussi, parce que d'après les lois européennes, ça doit être non discriminatoire, tout le monde doit payer les mêmes péages. Je crois qu'il faut essayer de limiter, ce ne sera pas facile, ce sera long, de limiter les déplacements par un urbanisme, un aménagement du territoire et un coût des transports qui intègre les économies d'énergie, la lutte contre l'effet de serre et le social. Je crois que la périurbanisation, je vous en ai parlé, est incompatible avec la protection de l'environnement parce que les habitants périurbains n'ont pas d'autre choix que la voiture pour s'approvisionner, travailler, se distraire. Donc je crois qu'il faudra en venir vers une certaine relocalisation de l'habitation hein, et que la ville qui a été longtemps si décriée au profit de la campagne peut apparaître maintenant comme le lieu d'une écologie possible pour la vie quotidienne. Concernant la taxation des carburants fossiles, je pense qu'il faut taxer davantage les carburants se traduisent par l'émission de gaz à effet de serre de manière très importante. C'est plus contrôlable et efficace que la création artificielle d'un marché des permis de droits d'émission négociables. C'est ce qu'a fait l'Union européenne. mais c'est une boîte noire, c'est absolument pas contrôlable par les citoyens. D'énormes d'émissions abaissées, une taxation de la pollution, ça c'est beaucoup plus facilement contrôlable. Elle devra être croissante selon un plan pluriannuel. Les Anglais l'ont fait. Les Anglais en 1994 ont décidé d'augmenter de 5% par an les taxes sur le gazole routier. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, le gazole en Grande-Bretagne coûte 50% plus cher que chez nous en France. Et que les gens sont considérablement revenus au train, aussi bien les voyageurs que pour les marchandises. Les néolibéraux disent souvent, regardez, la privatisation britannique, ça a vachement marché, le trafic a considérablement augmenté. C'est pas à cause de la privatisation, c'est parce qu'ils ont augmenté le gazole de 50%. Et autre chose aussi qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont instauré un moratoire de fait sur la construction des nouvelles autoroutes. Il ne faut pas l'oublier. Bon, je l'ai dit, la technologie ne suffira pas à atteindre les objectifs visés. Il faudra que cette augmentation du prix des transports, j'ai dit que c'était sous-tarifé, concerne avant toute chose les modes où règne le dumping social, c'est-à-dire, surtout actuellement, les marins et les chauffeurs routiers qui connaissent des situations presque inhumaines. Et pour cela, je pense qu'il faut mettre en place ou maintenir, quand ils existent déjà, des statuts pour les personnels, parce que l'existence de statuts pour les personnels participe justement à la fixation d'un prix du transport et à l'empêchement du dumping social. D'autres pistes, mais je voudrais quand même laisser de la place au débat, donc je vais peut-être en rester là. Moi, j'ai le sentiment, quand je fais des conférences comme ça, ou quand je discute avec des personnes, qu'il y a une certaine avance, et même une avance certaine, très importante, de la part de la population, par rapport aux décideurs politiques, notamment nationaux. Je dis bien notamment nationaux, parce que les élus locaux, ils ont pas mal progressé aussi. On commence à mettre des politiques des transports en place un peu plus intelligentes dans les villes, depuis 4 ou 5 ans. Mais par contre, au niveau des élus nationaux, je crois qu'on a à notre tour, puisque ATTAC est une association qui se veut d'éducation populaire tournée vers l'action, je crois qu'on a énormément d'éducation populaire à faire vers nos élus nationaux, qui ont une très forte tendance à raisonner comme au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en matière de politique des transports. Voilà, je vous remercie.